Sortir. Vous voyez, on mange bien, en tout cas en Espagne. En Finlande, j'étais plus surpris. Comment on fête Pâques en Finlande? Bon, c'est les pays nordistes. Faut être dans la compassion. On se déguise en sorcier ou en troll et on va chercher des bonbons. Oui, oui, pour Pâques. On fait ça pour Pâques. Donc c'est Halloween décalé, quoi. Hein. Mais j'étais surpris, mais ils le font vraiment hein, en Suède. J'étais quelques fois en Suède, j'ai eu l'occasion de voir. Mais apparemment, dans d'autres pays scandinaves, ils font ça. Donc c'est plutôt l'aspect mort, du coup. En Russie, on ne perd pas le nord parce qu'on prépare l'agneau au beurre ou le jambon au four. Et en dessert, le koulich, si, genre, ça, je ne sais pas comment ça se prononce non plus, c'est le dessert au rhum et au safran. Et la Grèce se défend bien également avec la soupe aux tripes dans laquelle on cuit le cœur et les poumons de l'agneau. J'ai pas mis les images parce que bon. Et en dessert, pas de relâchement. Le tsoureki, c'est un pain brioché tressé sur lequel on pose des œufs rouges, symbole du sacrifice. Et puis chaque voisin va percer l'œuf à côté comme symbole. En Italie aussi ? D'accord, ok. Avec les œufs, tout ça ? D'accord. Intéressant. Mais en tout cas, il y a toujours à manger. Il y a toujours quelque chose à manger. Ah si, une autre tradition, une dernière, en Australie, pour lutter contre la prolifération des lapins dans la période de Pâques, on tente de remplacer le lapin de Pâques contre le bilby de Pâques. Alors, le bilby, c'est quoi ? C'est un petit animal, un marsupial, avec des grandes oreilles. Ouais, c'est pas beau. Hein. Mais en fait, on fait ça parce que c'est en voie d'extinction. Donc on se dit c'est bien de sauver ces animaux-là. Donc voilà, mais allez faire le lien entre le bilby de Pâques et la fête biblique de Pâques. Là, ça sera un peu plus compliqué. Là, il y aura du boulot. Voilà. Mais là, je pense que Farid nous éclairera un jour sur cette histoire-là. En tout cas, quelle que soit la culture, on célèbre la vie, on mange et on sort évidemment de cette période de carême. Et toutes les cultures vont mettre en avant leur spécificité pour célébrer le partage, la famille, la vie. Et finalement, qu'est-ce qu'on fête vraiment à Pâques ? Alors, c'est une question qui peut sembler évidente pour les chrétiens, peut-être moins pour ceux qui sont en recherche, mais ça reste une question aussi pertinente finalement. Qu'est-ce qu'on fête à Pâques ? Alors, on l'a célébré, on l'a chanté, Jésus, il est mort, il est ressuscité. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? D'où vient cette histoire et dans quoi elle s'inscrit ? Et pour comprendre Pâques, il faut comprendre la Pâque. Voilà, ça ne fait pas avancer le public, mais c'est comme ça que je le verbalise. Et je vais partir d'un verset très simple. Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Alors c'est vrai que souvent on voit on va dire ce moment des évangiles où Jésus va à Jérusalem, sur les vitraux, souvent il est triste, voilà, il est dans le recueillement. Mais qu'est-ce qu'il allait faire à Jérusalem ? Il allait faire la fête. C'est notre façon de présenter les choses. Il allait faire la fête et il allait fêter la Pâque. Il allait fêter la fête la plus importante du calendrier juif. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tous les Juifs se retrouvaient sur la route pour Jérusalem. Il faut s'imaginer des dizaines de milliers de personnes, de pèlerins, ensemble qui se retrouvent, la ferveur, le zèle, on retrouve ses amis, peut-être les membres de sa famille plus éloignés, et on va tous au même endroit fêter la même chose et manger la même chose. Alors qu'est-ce qu'ils allaient manger ? Alors ils n'allaient pas manger bilby l'Australien, ils allaient manger l'agneau, l'agneau pascal. Et la question c'est pourquoi un agneau ? Et là c'est la minute d'histoire géo. Parce qu'il faut bien comprendre qu'on fait souvent la comparaison entre l'agneau et Jésus, mais il faut comprendre comment on en arrive là finalement. Comment on en arrive à comparer un animal et notre sauveur. Eh bien, dans l'histoire juive, des siècles avant l'arrivée de Jésus, les Juifs étaient captifs en Égypte. Pharaon tenait d'une main de fer tous les Hébreux en Égypte. Et les Juifs ont été exploités, persécutés, torturés, c'était des grandes douleurs, des siècles de souffrance. Et dans cette histoire, Dieu est intervenu et il a dit quelque chose. Pâques, c'est Dieu qui intervient dans une situation dramatique. Dieu intervient et il dit quelque chose. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ceci. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. C'est comme ça qu'on pourrait résumer aussi la Pâque. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Ça fait partie des messages de Pâques. Dieu sait quand on souffre, il sait quand on pleure, il sait pourquoi on pleure, il entend nos cris, il connaît nos douleurs. Et il dit, j'arrive pour délivrer. C'est typiquement le héros qui intervient pour sauver une personne en danger. Et pour tenter de faire fléchir Pharaon, on va avoir les fameuses 10 plaies, les 10 plaies en Égypte. Alors, quelques petites photos. Par exemple, la mort des troupeaux. Les éléments vont se mettre à jouer contre les Égyptiens. Il va y avoir des moustiques. On connaît bien ça dans le sud-est. Quoique j'en ai vu un il n'y a pas longtemps, même à Reims, j'en ai vu un. Ah ouais, je me suis dit là, ça va pas. Peut-être, oui. Ça doit être ça. Ouais, c'est là. Non, c'est pas impossible. Non, c'était un vrai moustique que j'ai vu. Et pourtant, il faisait même pas 0 degré, mais voilà, je sais pas ce qu'il faisait là. Comme quoi, hein. Les mouches, la grêle, les ténèbres. Il y a même écrit qu'il y a les ténèbres, il y aura ce ciel noir qui va venir sur l'Égypte. Et puis, toutes ces choses qui vont tenter de faire fléchir Pharaon. Et ce qu'il faut comprendre dans ça, parce que pour comprendre ce qu'a fait Jésus, il faut comprendre cette histoire-là. Parce qu'il y a l'idée d'un remake, on refait une histoire qui va aller beaucoup plus loin. Dieu intervient en Égypte, il commence une bataille pour sauver son peuple. Il va sauver un peuple opprimé, il va délivrer le faible, il va délivrer les petits. C'est ça l'histoire de Pâques. Dieu intervient, il entend les cris, il intervient et il commence un combat. Et il va mettre des forces dans la bataille pour tenter de faire fléchir l'ennemi. Mais Pharaon ne cède pas et continue son projet, si ça marche, son projet de dictateur. Il continue l'oppression et le peuple continue de crier. Il continue de crier. Alors Dieu va passer la vitesse supérieure. Et il a dit aux familles juives, vous allez rentrer chez vous, vous rentrez dans vos maisons, et vous allez sacrifier un agneau. Et vous mettrez du sang de cet agneau sur le linteau de vos portes. Vous allez manger ce repas, vous préparez vos valises, et vous attendez. Alors c'est paradoxal pour un peuple opprimé qui crie, qui est dans la douleur, faites vos valises. Sacrifiez l'agneau, mettez le sang sur le linteau, mangez et attendez. Et pour continuer cette bataille contre l'ennemi, cette bataille contre Pharaon, parce que c'est ça l'histoire de Pâques, Dieu envoie un ange qui avait pour ordre de s'en prendre à tous les premiers-nés d'Égypte, sauf les premiers-nés des maisons où il y avait le sang de cet agneau sur les linteaux des portes. Et à ce moment-là, Pharaon réalise la puissance de Dieu et il cède à la demande et il dit, OK, je vous laisse partir. Dieu a gagné une bataille. Par la mort d'un agneau, Dieu gagne la bataille et il met fin à près de 400 ans d'esclavage. Il fallait là se battre. Dieu s'est battu comme un héros qui sauve pour mettre fin à une folle tyrannie. Et l'agneau est devenu le symbole de cette délivrance, puisque c'est avec son sang qu'on a été protégé de cette attaque envers Pharaon. Et quand on fête Pâques et qu'il y a cet agneau, on se rappelle de ça. Et à chaque fois que le peuple s'éloignera de Dieu, Dieu leur rappellera, voilà tout ce que j'ai fait. Mangez l'agneau, souvenez-vous de ce que j'ai fait. Je me suis battu pour vous. J'ai tout donné. Même cet agneau-là qui est mort. Et cette histoire-là, quelque part, Jésus va la reprendre. Jésus va la reprendre. C'est pour ça que si on veut s'intéresser à l'agneau et au sacrifice de Jésus, il faut s'intéresser à toute une histoire derrière, à toute une bataille qui va être menée contre l'ennemi. Et le sacrifice n'en sera que le symbole, le paroxysme, la bataille finale. Mais il faut comprendre toute cette histoire-là d'un Dieu qui, en Égypte, va se battre pour son peuple. Il va se battre pour les délivrer comme un héros. Il a entendu les cris et il vient. Il s'est interposé entre Pharaon et son peuple et il est venu les délivrer d'une grande violence. Quand Jésus va à Jérusalem, c'est ça qu'il va fêter. Et il y a le symbole de cet agneau qu'ils sont allés manger. Mais la Pâque, ça veut aussi dire que la libération vient de Dieu seul. Pendant que l'ange agissait pour faire fléchir Pharaon, le peuple se tournait les pouces. On mangeait, on préparait ses valises, mais il n'y avait aucune démarche politique, aucune démarche militaire. On attendait la délivrance. Et on sacrifiait cet agneau pour se protéger. Pour que le peuple passe de l'état d'esclave au bonheur. Alors pourquoi je rappelle tout ça ce matin ? Parce que quand Jésus va à Jérusalem, il va entreprendre le même combat. C'est quelque part la même histoire, c'est en tout cas la même cause qu'il va plaider. Parce que quand il va à Jérusalem, il va accomplir plein de choses qui sont dans le même état d'esprit. Il va faire des choses formidables. Suivez-le à un mariage et il transforme l'eau en vin. Suivez-le à un enterrement et il ressuscitera votre ami. Suivez-le, amenez-le à des gens malades, il va les guérir. Amenez-le à des gens tourmentés, il va les délivrer. Amenez-le à des pauvres, il va les nourrir. Amenez-le à des étrangers ou des exclus et il va les accueillir. Amenez-le à votre belle-mère, il la guérira. Il faut s'appeler Pierre, oui. Alors là, on le dit en rigolant. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, là, en allant à Jérusalem ? Il reprend une histoire. J'ai vu un ennemi, je vais mettre toutes mes forces dans la bataille parce que j'ai vu l'injustice, j'entends les cris de cette humanité qui a besoin de Dieu et je vais entreprendre la même cause, je vais plaider la même cause envers les faibles, les opprimés, je vais me battre pour eux. Et c'est toute cette histoire qui nous mène à sa mort et à sa résurrection. Sa mort n'a de sens que dans cette histoire où il se bat pour nous. De la même façon que Dieu en Égypte s'est battu pour son peuple, Jésus s'est battu pour nous pendant ses années de ministère. Il ne cessera de plaider la cause des faibles et des opprimés, de détruire les œuvres du diable, dit la Bible, de guérir les malades, de délivrer les tourmentés, d'aller vers tous ceux que le monde a rejetés. Il s'est battu pour chacun d'entre nous, un combat pour la justice, un combat pour la paix, un combat pour faire avancer un royaume meilleur et éternel. Et c'est avec le même état d'esprit que Dieu va combattre pour son peuple en Égypte que Jésus entreprend cette marche. Il va à Jérusalem pour mourir comme cet agneau, mais avant, il y a toute une bataille qu'il va entreprendre. Il va plaider notre cause. De la même façon qu'en Égypte, Dieu se bat pour son peuple, et bien en terre d'Israël, Jésus se battait pour nous. Et c'est ces deux histoires qui sont là devant nous à cette fête de Pâques. C'est la même plaidoirie de Dieu envers nous à cette fête de Pâques. Et après des jours et des jours de bataille en Égypte, cet agneau meurt pour permettre la délivrance d'un peuple. Et bien après des années de combat que Jésus va entreprendre contre l'ennemi pour nous, et bien lui aussi mourra pour permettre la délivrance. Et c'est cette histoire qui se répète, mais qui s'accomplit encore plus fort. Mais l'histoire de Pâques n'a de sens qu'en prolongement de cette histoire en Égypte. Parce que c'est la même cause qui est plaidée, avec un accomplissement bien supérieur. De la même façon que Dieu en Égypte a combattu l'injustice, la folle tyrannie d'un dictateur, eh bien Jésus va plaider la cause de tous les opprimés. Pendant ces 3 années et demie de ministère. Je voulais le rappeler ce matin parce que ce n'est pas anodin. C'est ça la mort et la résurrection. c'est tout ce combat-là. La mort de l'agneau, c'est tout le combat avant. La mort de Jésus, c'est tout le combat qui va être entrepris avant et qui nous rend admiratifs de ce héros qui n'a jamais fléchi, qui n'a jamais péché et qui allait chercher ses victoires. Et alors que Jésus va à Jérusalem, eh bien, c'est justement le soir où on fête la délivrance d'Égypte, qu'il va être condamné à mort et qu'il va mourir comme cet agneau, sans se débattre. Il va se laisser amener, il va donner sa vie. Et comme on l'a dit avant, dans sa mort, il va tout emporter, nos fautes, nos péchés, tous nos manquements, pour ressusciter le troisième jour et nous donner la victoire, pour vaincre même la mort. Mais cet agneau et ce Jésus, cet agneau qui préfigurait Jésus, n'a de sens que dans ces deux histoires, une histoire d'amour où Dieu intervient, où il entend des cris, c'est ça Pâques. J'ai entendu les cris, je suis venu, je me suis interposé entre l'ennemi et toi, je suis mort, et j'ai tout donné. Et je suis ressuscité pour te montrer que c'était vrai et pour vaincre la mort. Tout ce qu'on devait subir, nos fautes, nos manquements, tout ce qui nous faisait du mal, tout ce qui nous rendait esclaves, c'est la même idée qu'en Égypte. Il est allé le battre jusque dans la mort. Il s'est interposé entre nos ennemis et nous, et il a gagné la bataille. Et à l'inverse d'un pharaon qui, lui, se servait des Hébreux pour les opprimer, Jésus s'est abaissé et a servi son peuple. Et... Alors, une question qu'on peut se poser, il y a une question que je me suis posée par rapport à ça, c'est si Jésus meurt pour nous et ressuscite, comment ça se fait que certains arrivent à la conclusion qu'une fois qu'il a fait ça, il va falloir payer toute notre vie la note de sa mort et de sa résurrection. Mais j'aimerais rappeler une chose capitale dans la Pâque juive et chrétienne, c'est que ce soit pour les 10 plaies d'Égypte ou pour que ce soit la mort de Jésus à Jérusalem, c'est Dieu qui prend l'initiative lui-même de nous sauver. Il le fait de son propre chef. Même l'humanité veut lui dire de ne pas le faire. C'est sa décision à lui, il le fait librement. Il a vu l'ennemi, il s'est interposé, il est mort, il est ressuscité. Il n'a rien demandé à personne, c'est son idée à lui, c'est son plan à lui. Comme dit la Bible, comme un héros qui sauve par amour. Pourquoi je dis ça? Parce que si c'est sa décision de venir nous sauver, si c'est lui qui décide de le faire, comment passe-t-on de quelqu'un qui décide de nous sauver librement à quelqu'un qui voudrait nous le faire payer? C'est pas logique. On a eu l'exemple récemment de ce gendarme qui s'est donné en otage à un terroriste et qui est mort. C'est sa décision, il a fait librement. C'est un geste héroïque, mais ça n'aurait pas de sens que la famille demande des comptes à la personne qui a été sauvée. Parce que c'est sa décision à lui, c'est son choix à lui. Et quand Jésus décide d'aller à Jérusalem, c'est sa décision à lui, c'est pas la nôtre. Peut-être même qu'on aurait voulu l'en empêcher. Mais il y est allé et il est mort pour nous. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est que la façon dont Dieu nous sauve, sa mort et sa résurrection, la façon dont Dieu nous sauve est aussi importante que le sauvetage lui-même. Et Dieu nous sauve par amour, pas pour régler des comptes avec nous après nous. Et là, il y a un magnifique verset qui nous prouve ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné son Fils, c'est sa décision à lui. Ça n'aura aucun sens qu'il nous demande des comptes après. C'est sa décision, il l'a fait. Et pour ça, il est glorieux. En tout cas, que ce soit la délivrance d'Égypte ou la délivrance à Jérusalem et pour le monde, Pâques nous pose un certain nombre de questions que j'aimerais nous poser ce matin. Parce que comme je l'ai dit, toute la bataille que Dieu mène en Égypte et toute la bataille que Jésus mène en terre d'Israël nous pose des questions à nous aujourd'hui par rapport à Pâques. La question sur nos vies, sur ce qu'on aspire à voir, à expérimenter. Cette résurrection nous interpelle sur notre vision du monde. Et j'ai noté certaines questions. Est-ce qu'il faudrait que ce soit les doux qui règnent ou les violents? Est-ce qu'il faudrait que ce soit les artisans de paix qui soient écoutés ou les querelleurs? Est-ce qu'il faudrait que les chefs comme Jésus servent leur entourage, ou plutôt les tyrannisent comme Pharaon? Est-ce qu'il faudrait regarder l'injustice et ne rien faire, ou s'interposer entre le bourreau et la victime? Est-ce qu'il faudrait regarder les gens mourir de faim ou les nourrir? Est-ce qu'il faudrait pardonner la femme adultère ou la condamner? Est-ce qu'il faudrait accepter l'étranger ou l'exclure? Est-ce qu'il faudrait aimer ou haïr? Toutes ces valeurs que Dieu plaide en Égypte, que Jésus plaide en terre d'Israël, ce sont des questions qui nous sont posées aujourd'hui. Dans quel monde vous voulez vivre? Et tout ça, Jésus le valide dans la Pâque, dans sa mort et dans sa résurrection. Et toutes les valeurs auxquelles nous aspirons le plus profondément en nous sont validées dans la mort et dans la résurrection de Jésus. Toutes ces valeurs-là, nous y souscrivons. Et même les gens du monde, sans le savoir, la plupart du temps, ils souscrivent. Et c'est là où on doit proclamer la croix, la résurrection, parce qu'elle valide toutes ces valeurs et toutes ces questions que nous posons, que nous pose cette croix, cette résurrection. Jésus valide pleinement les combats que nous voulons mener dans ce monde, dans sa mort, dans sa résurrection, dans tout ce chemin qu'il a fait en terre d'Israël, dans tout ce chemin qu'il a fait en terre égyptienne, et dans tous les gens que nous voyons autour de nous souffrir. Tout ce à quoi nous aspirons de façon la plus profonde, on le retrouve dans la mort et dans la résurrection de Jésus. C'est ça la puissance de ce message. Toutes ces valeurs-là, je vois l'injustice, eh bien je viens combattre moi aussi, et je viens plaider la cause des opprimés. Et dans cette cause-là, Dieu nous a regardé nous aussi, il s'est dit, c'est aussi une cause qui est digne d'être vécue. Chacun d'entre nous, il y a une cause qui est digne d'être prise en compte. On est digne d'être sauvé d'après lui, parce qu'il nous a donné son Fils. Dans sa mort, dans sa résurrection, dans ses batailles qu'il gagne, il valide toutes ces causes que nous plaidons nous-mêmes pour le monde, dans nos vies, dans nos familles. Et dans sa résurrection, il nous dit, on gagne. Nous sommes gagnants. C'est pour ça que je voulais faire ce parallèle entre Pâques, la Pâque et Pâques, la Pâque chrétienne et juive. C'est que dans toutes les batailles que Dieu fait en Égypte, dans toutes les batailles que Jésus fait en terre d'Israël, il y a un état d'esprit dans lequel Jésus va mourir et ressusciter. C'est qu'il nous aime et qu'il veut nous sauver. Et que tout ce qui vibre en nous, toutes ces batailles, il va les valider pleinement dans sa mort et dans sa résurrection. Et cette résurrection nous appelle, elle nous interpelle toujours. Parce que c'est même là où naît notre foi. Moi, j'aime beaucoup ce verset. Si Christ n'est point ressuscité, votre foi ne mène à rien. À rien du tout. En d'autres termes, s'il est ressuscité, si tu lui parles, il te répondra. Mais là encore, on a les valeurs de Dieu. Ce n'est pas un menteur. Et il ne nous laisse pas dans le flou. Il le prouve, même en ressuscitant son Fils. Je vous prouve que c'est vrai ce que je dis. Je dis la vérité. Et tu verras que ta foi mène bien quelque part. Peut-être que pendant un certain temps, elle menait nulle part. Tu te posais des questions. Christ est ressuscité. Si tu lui parles, il va te parler. Ta foi va te mener vers une personne extraordinaire, vers ce héros d'Égypte, vers ce héros de cette terre d'Israël, vers ce héros du monde. Elle nous mène là, cette foi, c'est extraordinaire, parce qu'il est ressuscité et que dans cette résurrection, il nous répond. Il fait vibrer quelque chose en chacun d'entre nous. Et ça, c'est extraordinaire. Parce qu'il est ressuscité, parce qu'il nous répond, toutes les causes pour lesquelles il s'est battu, on va les sentir en nous et on va se dire, moi aussi, je suis au bénéfice de cet amour et moi aussi, j'ai envie de faire une différence dans ce monde. À notre héros Jésus, ce défenseur des causes perdues, avec tant de patience, d'amour. Pâques nous rappelle ceci. Jésus veut être interpellé dans sa résurrection. Interpellez-le. Il faut qu'on l'interpelle. Chrétien ou pas, il faut qu'on l'interpelle. Parce qu'il dit la vérité. La vérité depuis l'Égypte, la vérité depuis Israël, depuis Jérusalem. La vérité dans la mort, la vérité dans la résurrection, celle d'un vrai héros qui sauve, parce qu'il n'est pas un menteur, il dit la vérité et en plus il le prouve. tout ce qu'on croit, toutes nos aspirations, tous les combats que nous menons sont validés pleinement dans la croix et dans la résurrection qui va rendre vivantes toutes les valeurs qui comptent et qui nous amène à nous-mêmes expérimenter cela pour nous-mêmes, se sentir aimé inconditionnellement, se sentir écouté, se savoir pardonner, savoir que quelqu'un a plaidé et défendu notre cause jusque dans la mort et nous apporter la victoire sur la mort pour qu'à notre tour aussi nous soyons interpellés par ça et on se dise mais nous aussi on a envie de combattre dans ce sens-là avec Dieu pour plaider les causes qui comptent pour nous. Il y aurait tant d'autres choses à dire à cette fête de Pâques, mais je voulais rappeler que Dieu valide dans cette mort, dans cette résurrection, des valeurs qui comptent pour nous et qui s'est vraiment battu, qu'il a vaincu la mort pour ça, et qu'on peut le crier, on peut le dire au monde. Et une des pistes que j'aimerais donner, c'est justement quand on parle de Dieu autour de nous, et qu'on voit les gens qui veulent plaider des causes, même humanitaires, qui veulent aider les exclus, les migrants, ou tant d'autres choses, on se dit, mais ça, à la croix, on le retrouve, et dans la résurrection, on le retrouve pleinement. Pleinement, il le valide, tout ça. Venez le rejoindre là, lui, il le valide. C'est une façon d'annoncer l'évangile, la mort, la résurrection, pour se dire toutes les causes que vous voulez défendre, qui résonnent en vous, vous les trouverez pleinement dans la résurrection. Et si vous lui parlez, vous verrez que ça prendra un tout autre sens. Voilà le message de Pâques pour ce matin. Interpellons Jésus et célébrons la vie avec lui. Jésus veut qu'on se souvienne qu'il est mort pour toutes ces causes-là. Et il veut qu'on expérimente sa vie dans la résurrection, dans sa résurrection, pour ne plus avoir peur de rien, même pas de la mort. Il est glorieux. Et j'en ai terminé. Merci beaucoup.